Et Daniel va nous présenter un petit peu la structure du manuel. On peut tout de suite dire une chose quand même, avant de te donner la parole, Daniel. Le cahier des charges qui a été défini par le comité scientifique était celui d'un manuel à la française. Le manuel franco-allemand est beaucoup plus proche d'un manuel français que d'un manuel allemand. Et c'est ce que Daniel va nous expliquer. Je voudrais tout de suite dire que c'était un souhait des Allemands. Ce n'est pas quelque chose que la France a imposé à l'Allemagne. Les membres allemands du comité scientifique voulaient un manuel, on peut le dire comme ça, assez proche d'une structure française. Je peux même vous dire qu'à la première réunion, quand j'ai rencontré le comité scientifique, je leur ai moi-même dit que c'était trop français, qu'il fallait quelque chose d'un peu moins français, mais on ne m'a pas écouté.
Oui, le manuel franco-allemand ressemble beaucoup à un manuel français dans sa structure globale. On a fait un petit peu comme un Paris-Brest. C'est une pâtisserie française. Il y a une croûte et à l'intérieur beaucoup de crème pâtissière. Alors la croûte, c'est la pédagogie française, et la crème pâtissière, la crème, c'est la pédagogie allemande. On essaie de faire ça. Alors le noyau dur, c'est le système de la double page. La grande différence entre un manuel allemand et un manuel français, c'est d'abord la pagination. Comme en Allemagne, il faut bricoler avec tous les programmes qui sont en vigueur en Allemagne, les manuels allemands sont beaucoup plus copieux, alors que les manuels français sont volontairement synthétiques et structurés selon un système de double page. Premier type de double page, vous l'avez ici, une page de cours, avec, vous voyez, un texte d'auteur sur la page de gauche, volontairement synthétique, 3500 signes, pas plus, car sinon le texte d'auteur ne rentre pas dans la maquette du livre. Une boîte vocabulaire, dans la version allemande, les deux boîtes sont liées, mais en français, on a distingué les mots de vocabulaire et ce qu'on appelle les notions clés. En allemand, c'est Begriffe, je crois.
Begriffe.
Et sur la page de droite, des documents de nature variée, des textes volontairement courts, là encore, des graphiques, comme ici un graphique sur la croissance de la population dans le monde, des documents iconographiques, c'est une photographie, mais ce qui frappe beaucoup les lycéens allemands, je crois, c'est la qualité iconographique de l'ouvrage. Les documents iconographiques sont volontairement gros sur la page pour pouvoir être exploités durant la classe. Deuxième type de double page, ce que nous appelons les pages dossiers. Il s'agit d'approfondir un thème dans le chapitre considéré. Alors, pour cet exemple, nous proposons aux lycéens d'étudier l'évolution du monde ouvrier depuis le milieu du XIXe siècle à travers un choix de peinture. Dans cette structure française, nous avons intégré des pratiques pédagogiques allemandes et surtout nous avons voulu jouer à plein le jeu de la plus-value franco-allemande. Alors ce que vont trouver les lycéens des deux pays, c'est un renouvellement dans les documents. Alors je vais me placer du point de vue d'un lycéen français. Gaspard Mazeu peut-être expliquera ensuite comment ce que l'ouvrage apporte, en quoi il renouvelle l'approche côté allemand. Ce que vont trouver les lycéens français, ce sont des documents peu vus, des thèmes peu abordés dans les manuels français. Alors comme ici, vous voyez les résistances allemandes au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les manuels français, lorsque la résistance allemande est évoquée, ce qui est rare, ça se réduit à une photographie de Sophie Scholl. Là, sur cette page dossier, nous essayons de rendre compte de la résistance allemande au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y a un autre chapitre sur le Troisième Reich avant 1939, où elle est également évoquée. Nous évoquons la résistance allemande dans la diversité de ses composantes. Ce qu'il y a de propre à la pédagogie allemande dans ce manuel, c'est le questionnement des documents. Disons que nos collègues allemands ont un questionnement moins académique. Ils n'hésitent pas à demander aux élèves de prendre position, d'avoir une attitude critique, et pas seulement du point de vue de l'historien, vis-à-vis des documents, de pratiquer des jeux de rôle. Alors vous en avez un exemple ici, sur un dossier qui a été écrit par une auteure allemande, Michaela Braun, un dossier sur le Front populaire en France, sur l'année 1936. Vous voyez que nous avons reproduit la une d'un célèbre news magazine français, Le Nouvel Observateur, classé à gauche, qui a fait sa couverture sur les 70 ans, l'anniversaire du Front populaire en 2006. Et notre collègue allemande demande ceci aux lycéens. Imaginez que vous avez été ouvrier à l'époque du Front Populaire. Le Nouvel Observateur vous demande d'écrire vos souvenirs. Rédigez un article. Vous voyez, ça changera les lycéens français de la pratique de la dissertation.
Les professeurs français, quand ils voient ça, sautent en l'air. Hein. Ça ne se fait pas en France.
Il faut ajouter les professeurs bavarois aussi. Hein, ils n'aiment pas beaucoup ce genre de questions. Vous en avez fait l'expérience déjà. De même, nos collègues allemands n'hésitent pas à interroger leurs élèves sur des thèmes qui sont en résonance avec l'actualité. Vous en avez un exemple ici. Il s'agit d'une page de cours sur les rapports entre l'État et la religion en France et en Allemagne. Je reviendrai sur cette comparaison entre 1870 et 1914. Et notre collègue allemand, Peter Geis, pose la question suivante à la fin de l'étude des documents. Engager un débat sur le thème suivant. Un État libéral et démocratique en Europe doit-il être absolument neutre vis-à-vis de la religion ? Dans le manuel, les lycéens allemands et français auront l'occasion de se familiariser avec des types d'exercices qui sont pratiqués dans l'un et l'autre pays. Alors, par exemple, les lycéens allemands... Alors, encore le système de la double page. Vous avez ici une double page méthode. Alors, les lycéens allemands auront le bonheur de s'initier aux joies de la dissertation. Hein, vous trouverez une page bilan sur la technique de la dissertation, avec un exemple corrigé qui est proposé. Et les lycéens français pourront se familiariser avec des exercices qui sont peu pratiqués en France, par exemple l'étude d'un document d'archive. Donc nous avons une double page méthode, comment exploiter un document d'archive, comment faire un exposé. Les lycéens français ne parlent pas dans les classes françaises, hein, ils bavardent éventuellement, mais ils ne parlent pas, c'est le prof qui fait cours. Donc pas d'exposé, ça mettrait du désordre dans la classe. Autre exercice, je crois, qui est pas mal pratiqué en Allemagne, l'interview de témoins et l'exploitation de ces témoignages. Alors, enfin, un dernier emprunt aux pratiques pédagogiques de nos collègues allemands, l'étude de textes historiographiques. Pardonnez-moi, je fais des bêtises. Voilà. L'étude de textes d'historiens. Ces textes d'historiens ont disparu des manuels français. Il y en avait il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Ils ont disparu. Dans les manuels français, on utilisait essentiellement des documents sources, hein, alors que les élèves allemands peuvent être interrogés jusqu'à l'abitur sur des textes d'historiens. Et ça, nous avons trouvé ça très bien. Et donc, nous avons conçu, sur des points controversés, qui font l'objet de controverses entre les historiens, des dossiers historiographiques. Alors, vous en avez un exemple ici, qui est proposé. Quelle est la part personnelle d'Hitler dans le système de pouvoir institué par les nationaux socialistes après 1933? Alors, le manuel franco-allemand d'histoire est un manuel d'histoire européenne et mondiale, n'est pas un manuel d'histoire franco-allemande. Hein, ça me paraît très important de le dire. Hein. C'est un projet binational, mais dont la portée excède, hein, l'histoire de nos deux pays. Néanmoins, hein, il était normal que dans ce manuel, nous exploitions la plus-value franco-allemande et les collègues attendent que nous parlions d'histoire de France et d'histoire de l'Allemagne. Alors pour ce faire, nous avons essayé de jouer à fond la carte de l'histoire comparative. Vous voyez, alors vous en avez un exemple ici. Plutôt que sur cette période 1870-1914, de juxtaposer platement deux chapitres, l'un sur l'histoire de la France, l'autre sur l'histoire de l'Allemagne, nous avons voulu comparer, comparer l'évolution des deux pays. Dans un premier chapitre, qui est le chapitre 3, dont vous voyez la première page, nous comparons l'évolution politique, l'évolution événementielle, hein, de la France et de l'Allemagne entre 1870 et 1914. Et dans un second chapitre, hein, nous revenons sur cette période de manière plus thématique, l'Allemagne et la France, réponse aux défis du XIXe siècle, et nous comparons, là encore, l'évolution des deux pays face à quatre grands défis de la fin du XIXe siècle. Premier défi, l'irruption des masses dans la vie politique. Donc nous comparons, hein, les deux systèmes institutionnels, hein, la part qu'elles accordent, hein, aux aspirations, la part respective que les deux pays ont accordée aux aspirations démocratiques. Deuxième point de comparaison, la question sociale, c'est la réponse à apporter à la montée de la contestation ouvrière et l'essor du socialisme dans les deux pays. Troisième point de comparaison, nous l'avons croisé tout à l'heure, ce thème, les rapports entre État et religion dans les deux pays, ces rapports ont été conflictuels, mais pour des raisons très différentes, à la même époque, en France et en Allemagne. Enfin, quatrième point de comparaison, la montée du nationalisme et de l'antisémitisme en Allemagne et en France. Et ainsi, très logiquement, nous concluons ce chapitre par un dossier sur les perceptions réciproques entre Allemands et Français, où nous montrons à travers des documents comment le préjugé de l'ennemi héréditaire, Feindbild, hein, c'est enraciné dans nos deux sociétés, dans un contexte historique déterminé, hein, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Constater que le mot collaboration est le même dans les deux pays. Hein, le mot collaboration a été transcrit tel quel, hein, de l'allemand du français à l'allemand. Et sur la page de droite, la rubrique « Regard croisé franco-allemand », où nous revenons sur l'ensemble de la période, qui n'est pas forcément franco-allemande, hein, là il s'agit de la Seconde Guerre mondiale, mais nous revenons sur l'ensemble de la période sous un angle franco-allemand. Nous expliquons notamment ici dans les regards croisés que l'impact de la Seconde Guerre mondiale dans les deux sociétés a été évidemment très différent dans les deux pays, beaucoup plus fort en Allemagne qu'en France. Symboliquement, nous avons voulu bien sûr consacrer un dossier au traité de Versailles, et c'est le seul endroit dans l'ouvrage où nous avons placé un document dans les deux langues. Il s'agit du Schmarparagraph, l'article 231, sur les responsabilités de l'Allemagne dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Alors c'est l'occasion pour moi de dire que le manuel n'est pas un manuel bilingue, puisqu'il aurait fallu un double volume, doubler son volume, mais que le manuel est rigoureusement identique dans les deux langues, dans la mesure, bien sûr, où la traduction le permet. Enfin, nous avons voulu que dans le manuel franco-allemand soit bien représenter l'histoire des régions où les Français et les Allemands n'ont pas fait qu'échanger des regards dans leur histoire. C'est le cas en particulier pour l'Alsace et la Moselle. C'était aussi très important pour la partie française parce que la mémoire alsacienne et mosellane dans la période est une mémoire un peu oubliée en France, une mémoire refoulée dans la mémoire nationale française. Et nous avons consacré deux dossiers à l'Alsace-Moselle et vous avez ici l'exemple du dossier sur la seconde annexion de l'Alsace-Lorraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, je vous le disais, le manuel franco-allemand d'histoire n'est pas qu'un manuel d'histoire franco-allemande. Pour nous, ce projet s'insère dans une dimension européenne. Et nous n'avons pas voulu finir l'ouvrage sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Nous concluons le manuel sur un chapitre rétrospectif qui revient sur l'ensemble de la période, hein, et qui propose aux lycéens de découvrir l'histoire de l'idée européenne. À ma connaissance, à notre connaissance, le manuel d'histoire franco-allemand est le seul manuel d'histoire en France et en Allemagne qui propose aux lycéens des deux pays, hein, de faire l'histoire de l'Europe, de l'histoire de l'idée européenne depuis le 19e siècle jusqu'en 1945, et ne pas commencer l'histoire de l'Europe en 1945. Et nous montrons donc à la fin dans ce dossier comment l'idée européenne a pu être pervertie dans l'Europe de la collaboration. Vous voyez cette affiche, l'Europe unie contre le bolchevisme. Il s'agit d'une affiche de propagande collaborationniste. Et puis comment l'idée européenne a pu renaître dans la résistance. Philippe Mioche, ici présent, en parlerait mieux que nous, hein, avec deux manifestes de résistants européens, le manifeste de Ventotene, j'ai bien prononcé, Guillaume.
Ah, c'est mieux, ça parle.
Et le manifeste des résistances européennes adopté à Genève. Voilà, c'était notre façon à nous de répondre aux jeunes du Parlement franco-allemand, hein, que de resituer ce projet dans une perspective européenne.